Troisième partie. Aucun de nous, j'imagine, ne dormit très profondément, ni même d'une traite cette nuit-là. L'enthousiasme suscité par la découverte de Lake et la fureur croissante du vent nous en empêchèrent. La tempête était si violente, même où nous nous trouvions, que nous ne pouvions nous empêcher de nous demander ce qu'il en était au camp de Lake, juste sous les vastes sommets inconnus qui avaient engendré et déchaîné l'ouragan. À 10 heures, McTeague, qui était réveillé, essaya comme prévu de joindre Lake par TSF, mais quelques phénomènes électriques dans l'air troublé de l'ouest semblaient empêcher toute communication. Cependant, nous parvînmes à contacter l'Arkham, et Douglas m'informa qu'il n'avait pas non plus réussi à joindre Lake. Il n'était pas au courant pour le vent, car il y en avait très peu dans le détroit de McMurdo, malgré la rage avec laquelle il s'obstinait à souffler dans notre secteur. Tout le monde passa la journée à écouter avec inquiétude, en essayant de contacter Lake à intervalles réguliers, mais toujours en vain. Vers midi, un ouragan frénétique déferla de l'ouest, et nous craignîmes pour la sécurité de notre camp. Mais le vent finit par se calmer, à l'exception d'un sursaut modéré à 14 heures. Après 15 heures, c'était le calme plat. Nous redoublâmes nos efforts pour joindre Lake. Comme il disposait de 4 avions, chacun muni d'un excellent dispositif à ondes courtes, nous ne pouvions imaginer qu'un accident ordinaire ait endommagé tout son équipement radio d'un coup. Et pourtant, le silence de mort se prolongeait, et en pensant à la force délirante avec laquelle avait dû souffler le vent dans sa région, nous ne pouvions nous empêcher de faire les conjectures les plus pessimistes. À 18 heures, nos craintes s'étaient aggravées et précisées. Après avoir consulté Douglas et Thornfinson par TSF, je pris la décision d'enquêter. Le 5e avion que nous avions laissé à l'entrepôt du détroit de McMurdo, avec Sherman et 2 marins, était en bon état et prêt à servir sur le champ, et il semblait bien que le cas d'urgence pour lequel nous l'avions gardé s'était présenté. Je joignis Sherman par radio et lui ordonnai de me rejoindre avec l'avion et les 2 marins à la base sud. Il fallait faire aussi vite que possible, les conditions atmosphériques étant apparemment très favorables. Nous discutâmes ensuite du personnel de la mission d'enquête en préparation et décidâmes que nous emmènerions tout le monde, ainsi que le traîneau et les chiens que j'avais gardés avec moi. Même une telle charge ne dépasserait pas les capacités de portage d'un de ces énormes appareils construits selon nos spécifications afin de supporter le poids de grosses machines. Je continuai régulièrement d'essayer de joindre Lake, sans résultat. Sherman, accompagné des marins Gunnarsson et Larsen, décolla à 19h30 et nous fit en plein vol plusieurs rapports sur son trajet sans histoire. Ils arrivèrent à notre base à minuit et nous discutâmes aussitôt de notre action suivante. Il était risqué de survoler l'Antarctique avec un seul avion sans possibilité d'escale, mais nul ne se déroba face à ce qui paraissait être une pure nécessité. Nous allâmes nous coucher à 2 heures du matin, non sans avoir commencé à charger l'appareil, mais nous relevâmes après 4 courtes heures de sommeil pour terminer chargement et bagages. À 7h15, le 25 janvier, nous partîmes pour le nord-ouest. McTeague étant aux commandes, avec 10 hommes, 7 chiens, un traîneau, des réserves de carburant et de nourriture, et diverses choses dont la radio de bord. Le ciel était dégagé, plutôt calme, et la température relativement douce. Nous ne prévoyons aucun problème particulier pour atteindre la latitude et la longitude indiquées par Lake pour localiser son camp. Ce que nous craignions, c'était plutôt ce que nous risquions de trouver ou de ne pas trouver à la fin de notre voyage, car pour toute réponse aux appels que nous lancions vers la base, nous n'obtenions toujours que du silence. Chacun des incidents de ce vol de 4 heures et demie est imprimé dans ma mémoire en raison de sa situation cruciale dans ma vie. Il marque la perte, à l'âge de 54 ans, de la paix et de l'équilibre que possède l'esprit normal, habitué qu'il est à une certaine conception de la nature qui l'entoure et de ses lois. Les 10 hommes de l'équipage de sauvetage, mais l'étudiant Danforth et moi plus que tous les autres, allait désormais se trouver confronté à un monde hideusement magnifié, où rôdaient des horreurs que rien ne pourrait effacer et que nous nous retiendrions si possible de révéler au reste de l'humanité. Les journaux publièrent les bulletins que nous envoyons depuis l'avion, et dans lesquelles nous racontions notre vol en continu, les deux batailles que nous menâmes en altitude contre les bourrasques traîtresses, notre aperçu de la surface défoncée où Lake avait creusé son premier puits 3 jours plus tôt, et notre rencontre avec un groupe d'étranges cylindres de neige duveteux, comme ceux dont Amundsen et Bird avaient dit qu'ils roulaient dans le vent sur des lieues et des lieues de plateaux glacés. Toutefois, vint un moment où nous ne trouvâmes plus les mots pour décrire nos sensations d'une manière que la presse comprendrait, et un autre où nous fûmes forcés d'opter pour une stricte censure. Le marin Larsen fut le premier à percevoir devant nous la silhouette déchiquetée des cônes et sommets surnaturels, et ses cris attirèrent tout le monde au hublot du grand avion compartimenté. Malgré notre vitesse, les montagnes ne grandissaient que très lentement. Nous en déduisîmes qu'elles se trouvaient à une distance considérable et que seule leur taille anormale nous les rendait visibles. Cependant, petit à petit, elles montaient, menaçantes, dans le ciel occidental, ce qui nous permit de distinguer des pics nus, lugubres, noirâtres, et de percevoir l'étrange sentiment d'imaginaire qu'elles inspiraient, baignées dans la lumière rougeâtre de l'Antarctique, sur la toile de fond provocatrice que formaient les nuages irisés de poussière de glace. La scène tout entière semblait évoquer, de manière tenace et pénétrante, quelques secrets formidables et la possibilité d'une révélation. On aurait dit que ces sinistres flèches de cauchemar étaient les pylônes d'une effroyable porte ouvrant sur les sphères interdites du rêve, sur les abîmes complexes de l'éternité, de l'infini et de l'ultradimensionnalité. Je ne pouvais m'empêcher de penser que ces pics étaient maléfiques. Des montagnes démentes dont l'autre versant était tourné vers un abîme absolu et maudit. Ces arrière-plans de nuages bouillonnants à demi lumineux suggéraient l'ineffable promesse d'une vague au-delà éthérée, dont la spatialité dépassait la dimension terrestre et constituait un effarant rappel à l'isolement total, de la singularité, de la désolation et de la mort immémoriale de ce monde austral, vierge et insondable. Ce fut le jeune Danforth qui attira notre attention sur la silhouette curieusement régulière des plus hauts sommets. Une silhouette rappelant les fragments agglomérés de cubes parfaits dont Lake avait fait mention dans ses messages et qui justifiait parfaitement sa comparaison avec les ruines indistinctes comme rêvées de temples primitifs juchés sur des sommets nuageux d'Asie dans les peintures si subtiles et insolites de Roerich. Il se dégageait en effet de cet étrange continent aux chaînes mystérieuses l'impression obsédante de se trouver au milieu d'un tableau du maître. Je l'avais ressenti en octobre, alors que nous apercevions pour la première fois la Terre Victoria, et je l'éprouvais de nouveau, comme je sentais une nouvelle vague de malaise m'envahir alors que je prenais conscience des ressemblances avec les mythes archéens, des similitudes troublantes entre ce royaume de la mort et le tristement célèbre plateau de Leng, des écrits primitifs. Les mythologistes situent Leng en Asie centrale, mais l'espèce humaine et ses prédécesseurs ont la mémoire longue, et il est fort possible que certains récits nous viennent de contrées, montagnes et temples dont l'horreur remonte plus loin que l'Asie et qu'aucun monde humain connu. Quelques mystiques audacieux ont évoqué la possibilité que les fragmentaires manuscrits nakotiques aient une origine pré-pléistocène et suggéré que les disciples de Tsatogua étaient aussi étrangers à l'humanité que Tsatogua lui-même. Leng, où qu'elle se terre dans l'espace et le temps, n'était pas un lieu qui m'attirait le moins du monde. Et je ne goûtais pas davantage la proximité d'un monde qui, jadis, avait engendré d'ambiguës monstruosités archéennes comme celles que Lake avait décrites. Sur le moment, je regrettais amèrement d'avoir lu le détestable Necronomicon et d'avoir tant discuté à l'université avec Wilmartz, le folkloriste à l'érudition si mal placée. Cet état d'esprit ne fit probablement qu'accentuer ma réaction à l'étrange mirage qui s'abattit du zénith de plus en plus opalescent alors que nous approchions des monts et commencions à voir s'accumuler les ondulations des contreforts. Au cours des semaines précédentes, j'avais vu des dizaines de mirages polaires, dont certains étaient aussi bizarres et prodigieusement frappants. Mais celui que nous avions sous les yeux avait une touche tout à fait inédite et obscure de symbolisme menaçant. Et je ne pus que frissonner en voyant surgir de la vapeur de glace bouillonnante au-dessus de notre tête un inextricable labyrinthe de murs, de tours et de minarets. On aurait dit une cité cyclopéenne, dont l'architecture était inconnue de l'homme ou inaccessible à l'imagination humaine, composée de vastes agrégats de murs noirs comme la nuit, véritable perversion des lois géométriques et dont la sinistre bizarrerie atteignait de grotesques sommets. Il y avait des cônes tronqués, parfois cannelés ou en terrasse, surmontés de hautes cheminées cylindriques, élargies ici et là de forme bulbaire et souvent surmontées d'empilements de disques peu épais et festonnés, et aussi d'étranges constructions tabulaires qui dépassaient du reste, évoquant des empilements d'innombrables dalles rectangulaires ou de plateaux circulaires, ou encore d'étoiles à cinq branches, chacune chevauchant la précédente. Il y avait des cônes et pyramides composites, soit isolés, soit surmontant des cylindres, des cubes ou d'autres cônes ou pyramides tronquées, et parfois des flèches effilées étrangement regroupées par cinq. Toutes ces structures fébriles semblaient reliées par des ponts tubulaires passant de l'une à l'autre à des altitudes diverses mais toujours vertigineuses. D'ailleurs, la taille implicite de l'ensemble était tout bonnement terrifiante et oppressante de gigantisme. Ce mirage rappelait certaines des formes les plus extravagantes décrites et dessinées en 1820 par l'explorateur arctique et chasseur de baleines Scoresby. Mais en ce lieu et à ce moment, avec ces sombres montagnes inconnues dressées et époustouflantes devant nous, avec à l'esprit cette antédiluvienne erreur de la nature et la menace du désastre probable pesant sur notre expédition, nous semblions tous y voir le signe d'une malfaisance latente, un présage infiniment funeste. Je ne fus pas mécontent lorsque le mirage commença à se dissiper, même si, ce faisant, les tourelles et cônes cauchemardesques prirent pour quelques instants un aspect difforme qui les rendit plus hideuses encore. Alors que l'illusion tout entière se dissolvait dans un bouillonnement opalescent, nous tournâmes de nouveau notre regard vers la terre et vîmes que notre vol touchait à sa fin. Les monts inconnus se dressaient, vertigineux, tel un effroyable rempart bâti par des géants, et il n'y avait pas besoin de jumelles pour voir leur curieuse régularité, tant elles se découpaient avec une netteté étonnante. Nous survolions à présent les contreforts les plus bas et distinguions, au milieu de la neige, de la glace et des zones dénudées du plateau principal, deux points plus sombres que nous identifiâmes comme étant le camp de Lake et le chantier de forage. Les contreforts montaient rapidement à 8 ou 10 kilomètres de nous et formaient presque à eux seuls une chaîne indépendante des terrifiants sommets plus qu'himalayens qui se découpaient derrière eux. Rops, l'étudiant qui avait remplacé MacTige aux commandes, amorça enfin la descente vers la zone sombre de gauche, dont la taille permettait de supposer qu'il s'agissait du camp. Pendant ce temps, MacTige envoyait le dernier message non censuré que le monde recevrait de la part de notre expédition. Bien entendu, tout le monde a lu les brefs bulletins décevants sur le reste de notre séjour en Antarctique. Quelques heures après notre atterrissage, nous adressâmes un prudent compte-rendu de la tragédie que nous avions découverte, dans lequel nous annoncions à contre-cœur que l'effroyable tempête de la veille ou de l'avant-veille avait anéanti l'équipe de Lake. 11 morts avérés et le jeune Gedney disparu. Le public nous pardonna le flou et le manque de détails de notre rapport, supposant que nous étions sous le choc de ce triste événement. On nous crut lorsque nous expliquâmes que les mutilations infligées par le vent avaient rendu les 11 corps intransportables. En fait, je me félicite qu'en dépit de la détresse, de l'incompréhension totale et de l'horreur qui s'était emparée de nous, nous nous en soyons la plupart du temps tenus à la réserve. L'abominable vérité résidait dans ce que nous n'osions dire, dans ce que je n'oserais dire aujourd'hui encore s'il ne me fallait mettre d'autres explorateurs en garde contre d'indicibles terreurs. Le fait est que le vent avait causé d'épouvantables ravages. Nos compagnons auraient-ils pu survivre, même si l'autre événement ne s'était pas produit? On peut sérieusement en douter. La tempête, avec son déferlement délirant de particules de glace, avait dû dépasser tout ce que l'expédition avait connu jusque-là. L'un des abris d'avion, qui avait apparemment tous été abandonnés dans un état beaucoup trop fragile et inadapté, était presque pulvérisé. Quant au derrick au loin, sur le site de forage, il était en 1000 morceaux. Le métal exposé des avions cloués au sol et des machines de forage était si érodé qu'il étincelait. Et deux des petites tentes étaient abattues malgré les remblais. Les surfaces de bois laissées à la merci des rafales étaient piquetées et décapées, et il ne restait plus la moindre empreinte dans la neige. Il est aussi exact que nous ne trouvâmes pas un seul spécimen biologique archéen en assez bon état pour qu'on le transportât. Nous ramassâmes par contre quelques minéraux dans un grand monceau de débris, notamment plusieurs fragments de la fameuse théatite verdâtre, dont la forme en étoile à 5 branches curieusement arrondies et les légers motifs à base de points groupés inspiraient tant de rapprochements douteux. Et aussi des os fossilisés parmi lesquels se trouvaient des exemples particulièrement caractéristiques d'échantillons aux curieuses mutilations. Aucun chien n'avait survécu. L'enclos de neige dressé à la hâte près du camp était presque entièrement détruit. C'était peut-être l'œuvre de la tempête, mais les plus gros dégâts, sur le mur du côté du camp et qui n'était donc pas exposé au vent, suggèrent que les bêtes affolées avaient sauté ou forcé l'obstacle. Les 3 traîneaux avaient disparu, et nous nous efforçâmes d'expliquer que le vent les avait emportés dans l'inconnu. Comme les appareils de forage et de fusion des glaces que nous retrouvâmes sur le site des fouilles étaient irréparables, nous les utilisâmes pour combler l'ouverture que Lake avait percée à la dynamite, cette porte vaguement inquiétante ouvrant sur le passé. Nous laissâmes aussi au camp les 2 avions les plus détériorés, car il ne restait que 4 vrais pilotes, Sherman, Danforth, McTeague et Robs, parmi les survivants de l'expédition. Sans compter que l'état nerveux de Danforth ne lui permettait pas de naviguer. Nous rapportâmes tous les livres et l'équipement scientifique, entre autres accessoires, que nous pûmes retrouver, le gros du matériel ayant inexplicablement disparu. Les tentes de réserve et les fourrures étaient soit introuvables, soit en très mauvais état. C'est vers 16 heures, après un grand vol de reconnaissance qui nous força à considérer Gedney comme définitivement perdu, que nous envoyâmes notre message prudent à l'ARCAM afin qu'il le transmette. Nous nous en tînmes à un rapport aussi simple et distancié que possible, et je pense que c'était une bonne chose. La seule agitation que nous évoquâmes fut celle des chiens, plus que nerveux à proximité des spécimens biologiques, comme on pouvait s'y attendre à la lecture des comptes rendus de ce pauvre Lake. Je ne crois pas que nous ayons fait mention de leur nervosité non moins grande lorsqu'ils flairèrent les fragments étranges de stéatite verdâtre, mais aussi certains objets traînant dans la zone du désastre, entre autres les instruments scientifiques, les avions, les machines, aussi bien au camp que sur le site de forage. Autant d'objets dont les parties avaient été détachées, déplacées ou faussées par un vent étonnamment curieux et investigateur. On nous pardonnera d'être restés flous au sujet des 14 spécimens biologiques. Nous affirmâmes n'en avoir retrouvé que d'endommagés, mais qu'il en restait assez pour prouver l'étonnante et absolue véracité de la description de Lake. Il nous fut difficile de garder nos émotions pour nous. En tout cas, nous ne donnâmes pas le nombre de nos découvertes et ne parlâmes pas davantage de la manière précise dont nous les avions faites. Nous nous étions déjà mis d'accord pour ne rien dire qui pût suggérer une quelconque folie chez les hommes de Lake. Et pourtant, comment ne pas y penser en découvrant les corps incomplets de 6 monstruosités soigneusement enfouies debout dans des tombes de neige de 3 mètres sous des tertres à 5 branches percées de trous formant des motifs identiques à ceux des drôles de pierres verdâtres venues des temps mésozoïques ou tertiaire. Les 8 spécimens entiers mentionnés par Lake paraissaient s'être tout bonnement volatilisés. Comme nous ne voulions pas non plus troubler la tranquillité du public, Danforth et moi ne donnâmes pas de détails sur notre effroyable excursion de l'autre côté des montagnes le lendemain. Le fait est que seul un avion allégé au maximum pouvait franchir une chaîne de cette hauteur, si bien que la mission de reconnaissance, et c'est heureux, se limita à nous deux. À notre retour, à 1 heure du matin, Danforth était au bord de l'hystérie, mais parvenait à garder un flegme admirable. Je n'eus pas à insister pour qu'il me promette de ne montrer ni nos croquis, ni ce que nous avions dans nos poches, de se contenter de donner à nos compagnons les détails que nous étions convenus de communiquer au monde extérieur, et de cacher nos pellicules pour les faire développer ultérieurement à notre seul usage. Ainsi donc, une partie de l'histoire que je vais raconter sera aussi nouvelle pour Pabody, McTeague, Robs, Sherman et les autres que pour le public. En vérité, Danforth est encore plus muet que moi. En effet, il a vu, ou pense avoir vu, quelque chose dont il refuse de parler même à moi. Comme tout le monde le sait, nous faisions dans notre rapport le récit de notre difficile ascension. Nous y confirmions l'opinion de Lake selon laquelle les hauts sommets étaient faits d'ardoises archéennes et d'autres strates écrasées et très primitives qui n'avaient pas changé depuis le milieu de l'époque comanchéenne au moins. Nous y faisions un commentaire conventionnel sur la régularité des cubes agrégés et des formations en rempart. Nous concluions aussi que les entrées de cavernes indiquaient des veines calcaires dissoutes et faisions l'hypothèse que certains cols et pentes permettraient à des grimpeurs expérimentés d'escalader et de traverser toute la chaîne. Et l'observation que sur l'autre versant mystérieux s'étendait un vaste plateau, aussi ancien et immuable que les montagnes elles-mêmes, 6 000 mètres d'altitude, avec d'extravagantes formations rocheuses dépassant d'une fine couche de glace, et des contreforts bas et progressifs entre le plateau à proprement parler et les apics des plus hauts sommets. Ces données sont véridiques à tout point de vue, même si elles sont partielles, et elles satisfirent totalement les hommes restés au camp. Nous attribuâmes notre absence de 16 heures, plus qu'il n'en fallait pour le vol, l'atterrissage, l'exploration et la collecte de pierres, à une suite aussi longue qu'imaginaire de vents contraires. Nous racontâmes aussi avec fidélité notre atterrissage sur les contreforts de l'autre versant. Notre récit, fort heureusement, paraissait si réel et si banal que nul ne fut tenté de nous imiter. Si l'un de nos compagnons avait essayé, j'aurais usé de toute ma force de persuasion pour l'en empêcher. Quant à Danforth, qui sait ce qu'il aurait fait? Pendant notre absence, Peabody, McTeague et Williamson avaient travaillé d'arrache-pied à remettre les 2 meilleurs avions de Lake en état, malgré le sabotage totalement inexplicable des commandes. Nous décidâmes de charger tous les avions le lendemain matin afin de regagner notre base le plus tôt possible. Bien qu'il fût indirect, c'était le chemin le plus sûr pour rejoindre le détroit de McMurdo, car un survol en ligne droite des étendues les plus absolument inconnues de ce continent mort depuis la nuit des temps impliquerait beaucoup de risques supplémentaires. Il était illusoire d'espérer poursuivre l'exploration après nos pertes tragiques et la destruction du matériel de forage. Avec les doutes et horreurs qui nous entouraient et que nous gardions pour nous, nous n'avions qu'une envie, nous échapper dès que possible de ce monde austral, royaume de désolation où rôde la folie. Le public le sait, notre retour au monde se fit sans autre catastrophe. Tous les avions rejoignirent l'ancienne base le lendemain soir, c'était le 27 janvier, après un vol rapide et sans escale. Le 28, nous gagnâmes le détroit de McMurdo en 2 étapes. La défaillance d'un gouvernail par vent violent alors que nous survolions le banc de glace après avoir quitté le grand plateau fut responsable de notre unique et très brève pause. 5 jours plus tard, l'Arkham et le Miskatonic, avec à leur bord tous les hommes et le matériel, se libéraient de la banquise de plus en plus épaisse et remontaient la mer de Ross. Les montagnes moqueuses de la Terre Victoria se dressant à l'ouest sur un ciel antarctique menaçant et déformant les gémissements du vent en une large gamme de sons flûtés qui me glaçaient le tréfonds de l'âme. Après moins de 15 jours, nous laissions derrière nous la dernière trace de terre polaire en remerciant le ciel d'en avoir fini avec ce royaume hanté et maudit où la vie et la mort, l'espace et le temps avaient passé de sombres alliances blasphématoires. Aux temps obscurs suivant les premiers frémissements de la matière sur la croûte terrestre à peine refroidie. Depuis notre retour, nous nous efforçons tous en permanence de décourager l'exploration antarctique et gardons pour nous, avec une loyauté aussi magnifique qu'unanime, nos doutes et hypothèses. Le jeune Danforth lui-même, en dépit de sa dépression nerveuse, n'a jamais flanché ni parlé à ses médecins. En réalité, comme je l'ai dit, il y a une chose qu'il est le seul à avoir vue et dont il refuse de parler à quiconque. Et pourtant, s'il s'en ouvrait à moi, je suis sûr que cela améliorerait son état psychologique. Cela pourrait expliquer des choses et lui apporter un grand soulagement, même s'il a peut-être été victime d'une simple illusion consécutive à un choc. C'est l'impression qu'il me donne dans ces rares moments où, ne se contrôlant plus, il me murmure des propos incohérents qu'il renie avec véhémence sitôt qu'il se ressaisit. Nous aurons du mal à détourner les autres du grand sud blanc, et nos efforts pourront parfois nuire directement à notre cause en attirant l'attention. Nous aurions dû savoir depuis le début que la curiosité humaine est inépuisable et que nos résultats officiels suffiraient à encourager les hommes dans cette même sempiternelle poursuite de l'inconnu. Les rapports de Lake sur ces monstruosités biologiques avaient suscité un enthousiasme extrême chez les naturalistes et les paléontologues, mais nous avons eu la prudence de ne montrer ni les fragments prélevés sur les spécimens enterrés, ni les photographies des 10 spécimens en l'état où on les avait trouvés. Nous sommes aussi retenus de dévoiler les échantillons les plus déconcertants d'os mutilés et de stéatites verdâtres. De notre côté, Danforth et moi gardons pour nous les croquis et clichés pris sur le vaste plateau derrière la chaîne, mais aussi les choses fripées que nous avons lissées et examinées dans la terreur avant de les rapporter dans nos poches. Mais voilà que se monte cette expédition Starkweather Moor, avec un sérieux qui dépasse de loin tout ce que nous avons pu tenter. Et si on ne les dissuade pas, ils atteindront le cœur le plus secret de l'Antarctique, puis, à force de forages et de fusions, remonteront à la surface ce qui pourrait bien entraîner la fin du monde. Aussi dois-je me résoudre à passer outre toutes mes réticences, y compris à propos de cette fatidique chose innommable, au-delà des montagnes de la démence. Quatrième partie. C'est avec beaucoup d'hésitation et de répugnance que je retourne par la pensée au camp de Lake et à ce que nous y avons vraiment trouvé, ainsi qu'à l'autre chose derrière les montagnes. Je suis sans cesse tenté d'esquiver les détails et de remplacer les faits et déductions inéluctables par de simples allusions. J'espère en avoir déjà assez dit pour passer rapidement sur le reste. J'entends par là le reste des horreurs que nous découvrîmes dans le camp. J'ai parlé des ravages du vent sur la zone, des abris endommagés, des machines démontées, des différents degrés de nervosité de nos chiens, des traîneaux et autres objets disparus, de la mort des hommes et des animaux, de la disparition de Gedney et des 6 spécimens biologiques d'un monde mort depuis 40 millions d'années, dans leur folle sépulture, avec leur texture étrangement bien conservée malgré leurs blessures structurelles. Je ne me rappelle pas avoir mentionné qu'en examinant les chiens morts, nous nous étions aperçus qu'il en manquait un. Nous n'en fîmes pas grand cas sur le moment. En l'occurrence, seuls Danforth et moi serions amenés à repenser à cette disparition. L'essentiel de ce que j'ai omis a trait au cadavre et à certains détails qui pourraient ou non apporter une logique hideuse et incroyable au chaos apparent. Sur le moment, j'essayais de détourner l'attention des hommes de ces détails. car il était tellement plus simple, tellement plus normal, de tout attribuer à une crise de démence de la part de membres de l'équipe de Lake. Selon toute apparence, le vent démoniaque soufflant des montagnes avait dû être assez violent pour rendre fou tout homme perdu en ce haut lieu désertique des mystères terrestres. La suprême anomalie était bien entendu l'état des cadavres humains et canins. Tous s'étaient trouvés au cœur de quelque terrible altercation. Ils étaient déchirés et mutilés d'horribles et inexplicables manières. La mort, pour autant qu'on pût en juger, avait été systématiquement causée par strangulation ou lacération. À l'évidence, les chiens étaient à l'origine de l'incident, car l'état de leur enclos bâclé montrait que ce dernier avait été enfoncé de l'intérieur. Le corral était à l'écart du camp en raison de l'aversion des bêtes pour ces organismes archéens infernaux. Mais la précaution s'était avérée vaine. Abandonnés à eux-mêmes sous un vent monstrueux, derrière des murs fragiles et insuffisamment hauts, les chiens avaient dû se jeter sur l'obstacle. Nul ne saurait dire si c'était la faute des rafales ou de quelque odeur subtile mais de plus en plus forte émanant des spécimens cauchemardesques. Certes, les 10 spécimens étaient recouverts d'une toile de tente, mais le soleil oblique de l'Antarctique avait frappé sans discontinuer sur cette dernière, et comme Lake l'avait prédit, la chaleur avait tendance à détendre et dilater les tissus étrangement intacts et coriaces des créatures. Peut-être le vent avait-il emporté la toile et secoué ces choses, ce qui avait eu pour effet, malgré leur antiquité, de rendre évidentes leurs émissions olfactives les plus âcres. Mais quoi qu'il se soit produit, le résultat était hideux et révoltant. Peut-être vaudrait-il mieux que je mette mon émotivité de côté pour enfin révéler le pire de cette tragédie. Non sans avoir tout d'abord fait part de mon absolue certitude, fondée sur des observations de première main et les déductions parfaitement rigoureuses de Danforth et moi-même que Gedney, alors disparu, n'était absolument pas responsable des horreurs que nous trouvâmes. J'ai dit que les corps étaient effroyablement mutilés. Il me faut ajouter que certains avaient été incisés et amputés de la plus singulière, la plus froide et la plus inhumaine des manières. C'était vrai des chiens comme des hommes. Les corps les plus sains, les plus gras, qu'ils soient à quatre pattes ou à deux, étaient amputés de leur principale masse de chair. On aurait dit l'œuvre d'un boucher consciencieux. Autour des cadavres, on retrouva du sel, pris dans les coffres à provisions fracassés de nos avions, ce qui, en plus d'être insolite, suggérait les conclusions les plus abominables. L'horreur s'était produite dans l'un des hangars de fortune après que l'on avait traîné l'avion hors de l'abri. Par la suite, le vent avait effacé toute empreinte susceptible de fournir une théorie plausible. Des morceaux dispersés de vêtements arrachés comme à coups de serpe, des sujets humains disséqués, ne suggéraient aucune piste. Inutile de s'apesantir sur l'impression fort vague que j'eus de voir des débuts d'empreintes dans un coin abrité de l'enceinte détruite, car mon sentiment était qu'il ne s'agissait pas d'empreintes humaines. Illusion forcément due à tout ce que ce pauvre Lake avait dit sur les traces fossiles au fil des semaines précédentes. Il fallait se méfier de son imagination à l'ombre de ces montagnes démentes. Comme je l'ai indiqué, au bout du compte, il s'avéra que Gedney et un chien avaient disparu. À la suite de la découverte de cet abominable hangar, il nous manquait deux hommes et deux chiens. Mais la tente de dissection à peu près intacte dans laquelle nous pénétrâmes après avoir examiné les tombes monstrueuses avait quelque chose à nous apprendre. Elle n'était pas dans l'état où Lake l'avait laissée, car les restes du monstre primitif ne se trouvaient plus recouverts sur la table d'opération improvisée. En effet, nous nous étions déjà aperçus qu'une des 6 choses incomplètes enfouies dans leur tombe, en l'occurrence celle qui répandait une odeur légère mais particulièrement détestable, devait être composé des morceaux rassemblés de l'entité que Lake avait essayé d'étudier. La table de laboratoire et son pourtour étaient jonchés d'autres choses, et il ne nous fallut pas longtemps pour comprendre qu'il s'agissait des restes d'un homme et d'un chien disséqués avec minutie mais maladresse. J'épargnerai la sensibilité des survivants en taisant l'identité de la victime humaine. Les instruments d'anatomie de Lake n'étaient plus là, mais certains indices montraient qu'ils avaient été nettoyés avec soin. Le poêle à essence avait aussi disparu, mais autour de son emplacement, le sol était étrangement jonché d'allumettes. Nous enterrâmes les restes de l'homme avec ses 10 compagnons d'infortune et les restes canins avec les 35 chiens. Quant aux traînées bizarres sur la table et au désordre de livres illustrés malmenés avant d'être éparpillés, nous étions trop abasourdis pour faire une quelconque conjecture. Voilà pour ce que le camp nous réservait de pire. Mais d'autres choses, bien que moins horribles, s'avérèrent tout aussi déconcertantes. Impossible de formuler une hypothèse raisonnable sur la disparition de Gedney, du chien, des 8 spécimens biologiques intacts, des 3 traîneaux, de certains instruments, d'ouvrages techniques et scientifiques illustrés, de matériel d'écriture, de torches électriques et de piles, de nourriture et de carburant, d'appareils de chauffage, de tentes de réserve, de tenues en fourrure et ainsi de suite. De même, inutile de chercher à expliquer les taches d'encre cernées d'éclaboussures sur certaines feuilles de papier et les curieux signes de manipulation maladroite et d'expérimentation insolite autour des avions et de tous les autres dispositifs mécaniques dans le camp comme sur le site du forage. Les chiens semblaient avoir en horreur ces appareils étrangement démontés. Il y eut aussi le saccage du garde-manger, la disparition de certaines denrées de base, et le comique discordant d'un tas de boîtes de conserves ouvertes par des moyens improbables à des endroits qui ne l'étaient pas moins. Le grand nombre d'allumettes dispersées, qu'elles soient intactes, cassées ou brûlées, était une énième énigme mineure, tout comme les 2 ou 3 toiles de tentes et combinaisons en fourrure qui traînaient, tailladées de façons étranges et peu orthodoxes, sans doute suite à des tentatives maladroites pour effectuer d'inconcevables adaptations. Les mauvais traitements infligés aux cadavres humains et canins et les délirantes sépultures des spécimens archéens endommagés étaient cohérents avec cette apparente folie destructrice. En prévision d'une situation comme celle d'aujourd'hui, nous photographiâmes soigneusement toutes les preuves de comportement anormal au camp. Nous nous en servirons pour étayer notre plaidoyer contre le projet de l'expédition Starkweather-Moore. Nos premières actions après la découverte des corps dans le hangar furent de prendre des clichés des incroyables tombes sous leur tertre de neige à 5 branches, puis de les ouvrir. Nous ne pûmes nous empêcher de remarquer la ressemblance de ces monstrueux monticules percés de points groupés avec les descriptions que le pauvre Lake avait données des étranges fragments de stéatite verdâtre. Et lorsque nous tombâmes sur des échantillons des dites pierres dans les grands tas de minéraux, nous trouvâmes effectivement la ressemblance frappante. Il faut reconnaître que la formation dans son ensemble évoquait de manière abominable la tête en forme d'étoile de mer des entités archéennes. Nous en convînmes, ce rapprochement avait dû exercer une forte influence sur les esprits fragilisés, parce que trop sollicités de l'équipe de Lake. Car la folie, en particulier celle de Gedney, seul survivant potentiel, fut l'explication que tous admirent spontanément, du moins à haute voix. Cependant, je n'aurais pas la naïveté de le nier. Chacun de nous a pu envisager à brûle-pourpoint des hypothèses que la raison lui interdisait de formuler complètement. Sherman, Peabody, McTige survolèrent les environs dans l'après-midi en scrutant l'horizon avec leurs jumelles à la recherche de Gedney ou de l'équipement disparu, mais revinrent bredouilles. Ils rapportèrent que la titanesque chaîne s'étirait à l'infini, à droite comme à gauche, sans perte d'altitude ni changement dans sa structure de base. Sur certains sommets, toutefois, les formations régulières de cubes et de remparts étaient plus nettes et plus sombres, et présentaient une ressemblance d'autant plus fantastique avec les ruines des monts asiatiques dans les tableaux de Roerich. Les entrées de cavernes insolites semblaient à peu près régulièrement réparties à perte de vue. Malgré toutes les horreurs qui nous entouraient, il nous restait assez de ferveur scientifique et d'esprit d'aventure pour nous interroger sur le royaume inconnu qui s'étendait au-delà de ces mystérieuses montagnes. Comme précisé dans nos messages édulcorés, nous allâmes nous reposer à minuit, au terme d'une journée de terreur et de perplexité, mais non sans avoir prévu de tenter dès le lendemain matin un ou plusieurs vols en altitude à bord d'un avion allégé pour explorer l'autre côté de la chaîne avec un appareil de photographie aérienne et du matériel de géologie. Il fut décidé que Danforth et moi ferions la première tentative. Nous nous réveillâmes à 7 heures pour un décollage matinal. Néanmoins, des rafales, mentionnées dans le bref bulletin envoyé au monde extérieur, retardèrent notre départ jusqu'à près de 9 heures. J'ai déjà parlé du récit évasif que nous fîmes en rentrant 16 heures plus tard aux hommes restés au camp et qui fut transmis à l'extérieur. J'ai maintenant le terrible devoir de compléter ce rapport en remplissant les blancs miséricordieux avec des indications sur ce que nous avons vu dans ce monde caché par-delà les montagnes. Un aperçu des révélations qui achevèrent de faire basculer Danforth dans la dépression nerveuse. Si seulement il acceptait d'ajouter quelques mots directs sur ce qu'il pense avoir vu, même s'il s'agissait sans doute d'une hallucination due à sa nervosité, et qui fut peut-être la goutte d'eau qui le mena à sa situation actuelle. Mais il s'y oppose fermement. Je ne puis que répéter les paroles incohérentes qu'il me murmura plus tard sur ce qui lui avait arraché des hurlements, alors que l'avion s'élevait pour retraverser le col battu par les vents, à la suite du choc bien réel et tangible que nous avions partagé. Ce sera mon dernier mot. Si les signes évidents de la survivance d'horreurs antédiluviennes que j'aurais divulguées ne suffisent pas à dissuader les autres de toucher au cœur de l'Antarctique, ou à tout le moins de fouiller trop profondément sous la surface de ce suprême désert des secrets interdits où règne une éternelle et inhumaine désolation, on ne pourra me tenir pour responsable des malheurs innommables et peut-être incommensurables qui s'ensuivront. En étudiant les notes prises par Peabody au cours de son vol de l'après-midi précédent et en vérifiant ses données avec un sextant, Danforth et moi calculâmes que le col le plus bas de la chaîne se situait sur notre droite, en vue du camp, et s'élevait à une altitude comprise entre 7000 et 7300 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est donc vers ce point que nous dirigeâmes d'abord notre avion allégé lorsque nous embarquâmes pour ce vol de reconnaissance. Le camp lui-même, perché sur les contreforts en surplomb du haut plateau continental, se trouvait à une hauteur d'environ 3500 mètres. Aussi, la prise d'altitude ne fut-elle pas aussi grande qu'on peut l'imaginer. Toutefois, au cours de la montée, nous ressentîmes vivement les effets de la raréfaction de l'air et du froid intense, les conditions de visibilité nous obligeant à laisser ouverts les hublots de la cabine. Bien entendu, nous portions nos fourrures les plus chaudes. En approchant des sommets menaçants qui se dressaient, sombres et sinistres au-dessus de la neige fendue de crevasses et des glaciers interstitiels, nous distinguions de mieux en mieux les formations curieusement régulières agrippées aux pentes. Cela nous rappela une fois encore les étranges tableaux asiatiques de Nicolas Roerich. Les antiques strates rocheuses érodées par le vent confirmaient pleinement tous les communiqués de Lake et prouvaient que ces pics vénérables dominaient le paysage de cette manière depuis une époque extrêmement reculée de l'histoire terrestre, peut-être plus de 50 millions d'années. Il était vain de se demander quelle taille ils avaient atteint à leur apogée, mais dans cette drôle de région, tout indiquait l'existence d'obscures particularités atmosphériques opposées au changement et prévues pour retarder le processus climatique normal de désintégration des roches. Mais ce furent les entrelacs à flancs de montagnes, de cubes réguliers, de remparts et d'ouvertures de cavernes qui nous fascinèrent et nous troublèrent le plus. Je les étudiais aux jumelles, et faisait des photographies aériennes pendant que Danforth pilotait. Par moments, je le remplaçais aux commandes, bien que mes connaissances en la matière ne dépassent pas le niveau de l'amateurisme, afin qu'il puisse prendre les jumelles. Nous vîmes sans mal que, pour l'essentiel, les structures étaient composées de quartzite archéen assez clair, à la différence de toutes les formations visibles sur de larges zones du plateau continental, mais aussi que leur extrême et troublante régularité dépassait largement ce que le pauvre Lake avait observé. Comme il l'avait dit, les arêtes des cubes étaient effritées et émoussées par une éternité d'intense érosion, mais leur dureté et leur résistance surnaturelle les avaient sauvées de l'anéantissement. De nombreuses parties, en particulier les plus proches des pentes, semblaient faites de la même matière que les surfaces rocheuses environnantes. L'ensemble rappelait les ruines du Machu Picchu dans les Andes, ou les murs de fondation primitifs de Quiche, que l'expédition du musée d'Oxford Field a mis au jour en 1929. Qui plus est, Danforth et moi eûmes tous deux l'impression d'apercevoir ici et là des blocs cyclopéens distincts. Impression évoquée par Lake et qu'il avait attribuée à Carol, son compagnon de vol. La présence de telles structures à cet endroit me dépassait totalement, et le géologue en moi se sentit gagné par une singulière humilité. Les formations ignées présentent souvent d'étranges régularités, comme la célèbre chaussée des géants en Irlande. Mais cette prodigieuse chaîne, de par sa structure et malgré les cônes fumants que Lake avait tout d'abord cru apercevoir, n'était pas de nature volcanique. Les curieuses ouvertures de cavernes à proximité desquelles les non moins curieuses formations semblaient particulièrement nombreuses constituaient aussi une énigme, bien que mineure, de par leur forme géométrique. Comme l'avait précisé Lake dans son communiqué, elles étaient souvent carrées ou en demi-cercle, comme si quelque main magique avait façonné les orifices naturels pour les rendre plus symétriques. Elles étaient aussi remarquables par leur grand nombre et leur large répartition, qui suggérait que la région tout entière était percée de tunnels résultant de la dissolution des strates calcaires. Nous ne parvînmes pas à voir très loin à l'intérieur des cavernes, mais suffisamment pour remarquer l'absence apparente de stalactites et de stalagmites. À l'extérieur, les pentes autour de ces ouvertures paraissaient systématiquement lisses et régulières. Danforth trouvait même que les légères fissures et piqûres dues à l'érosion avaient tendance à former des motifs insolites. Marqué comme il l'était par les horreurs et les bizarreries découvertes au camp, il insinua que les trous ressemblaient vaguement à ces groupements troublants de points disséminés sur les pierres primitives verdâtres, si hideusement imités sur les tertres de forme démente sous lesquels étaient enterrées les six abominations. Nous étions progressivement montés en survolant les plus hauts contreforts, puis en longeant la chaîne en direction du col relativement bas que nous avions repéré. Ce faisant, nous jetions parfois des coups d'œil en contrebas aux chemins enneigés et glacés que nous aurions empruntés à pied, en nous demandant si l'aventure aurait été possible avec l'équipement plus rudimentaire d'antan. Non sans une certaine surprise, nous vîmes que le terrain était loin d'être aussi accidenté qu'on aurait pu s'y attendre, et qu'en dépit des crevasses et autres difficultés, il en aurait fallu davantage pour arrêter les traîneaux d'un Scott, d'un Shackleton ou d'un Amundsen. Certains glaciers permettaient apparemment de gravir le versant d'une manière étonnamment directe jusqu'au col mis à nu par le vent. En atteignant la passe que nous avions choisie, nous nous aperçûmes qu'elle ne faisait pas exception. Difficile de coucher sur le papier le sentiment d'attente teinté d'inquiétude qui montait en nous comme nous nous préparions à contourner la crête et à découvrir un monde vierge, quand bien même nous n'avions guère de raison de croire que les régions au-delà de la chaîne étaient fondamentalement différentes de celles que nous avions déjà vues et traversées. Le soupçon de mystère maléfique émanant de cette barrière montagneuse et du ciel, véritable mer opalescente, qui nous faisait signe chaque fois que nous l'apercevions entre deux sommets, était extrêmement subtil et ténu, au point d'être impossible à décrire littéralement avec de simples mots. Cette sensation relevait plutôt d'un vague symbolisme psychologique ou d'un rapprochement esthétique. C'était un mélange de poésie et de peinture exotique, mais aussi de mythes archaïques tapis dans des livres redoutés et interdits. Jusqu'au refrain du vent qui prenait un accent particulier de malignité consciente. L'espace d'une seconde, le son composite parut incorporer une note étrangement musicale, tenant du sifflet ou de la flûte, et qui couvrait une large gamme selon que les bourrasques entraient ou sortaient par la bouche des cavernes omniprésentes et sonores. Il y avait dans ce son quelque chose qui évoquait une répulsion trouble, et semblait aussi complexe et déconcertant que les autres impressions obscures dont je parlais précédemment. Après une lente ascension, nous nous trouvions à présent à une altitude de 7180 mètres selon le baromètre anéroïde. La région des neiges persistantes était désormais loin en dessous de nous. À notre hauteur, il n'y avait que des pentes sombres, dénudées, et le début de glaciers grossièrement striés. Sans oublier ces cubes, ces remparts et ces cavernes sonores, autant d'éléments provocateurs qui ajoutaient au décor un côté surnaturel, fantastique et onirique. Suivant du regard l'alignement de hauts pics, j'eus l'impression d'apercevoir celui que le pauvre Lake avait mentionné et dont le sommet était surmonté d'un rempart. Il semblait à moitié perdu dans une drôle de brume antarctique. D'ailleurs, c'était peut-être une brume de ce genre qui avait tout d'abord convaincu Lake du volcanisme de la chaîne. Le col s'ouvrait droit devant nous, lisse et battu par les vents, entre ses pylônes déchiquetés aux froncements hostiles. Au-delà, on voyait un ciel marbré de vapeurs tourbillonnantes et éclairées par le soleil polaire rasant. Le ciel de ce mystérieux royaume du lointain sur lequel, nous le sentions, aucun humain n'avait jamais posé les yeux. Encore un peu d'altitude, et nous contemplerions ce territoire. Dans l'incapacité de parler sinon en criant à cause des hurlements flûtés que produisait le vent en se ruant dans le col et qui s'ajoutaient au grondement des moteurs, Danforth et moi échangeâmes des regards éloquents. Quand enfin nous gagnâmes les quelques pieds qui nous manquaient, nous pûmes contempler, par-delà la formidable barrière, les secrets inviolés d'une terre antique et totalement étrangère.